Bien, bonjour à tous. Je suis heureux de vous proposer donc cet exposé sur les problèmes de société et les réponses de la Bible. Bon, je suis conscient que le titre est un peu ambitieux. Ce que je vous propose, évidemment, on ne pourra pas approfondir tous les grands problèmes de société, mais ce que je vous propose, c'est un survol, en fait. J'ai pris 18 thèmes de société et je vous propose de les examiner assez rapidement, chacun. Et je vous proposerai à chaque fois un ou plusieurs versets qui peuvent nous aider en tant que chrétiens à nous faire une opinion. Et aussi, éventuellement, dans des discussions, à expliquer pourquoi nous pensons de telle et telle manière. Je pense que c'est important qu'on ait à chaque fois des références bibliques qu'on puisse évoquer pour justifier notre manière de penser. Bon, je ne vais pas dire que des choses politiquement correctes. Il y a des choses qui, sur un plateau de télévision, me vaudraient des millions d'ennemis. Mais voilà, on est entre nous, entre chrétiens, et je ne suis pas ici pour faire plaisir à tout le monde, mais pour transmettre au mieux ce que nous dit la parole de Dieu, et n'en doutons pas, elle le dit pour notre bien. Alors, donc, ces 18 thèmes sont classés dans 6 domaines. Bon, on va faire un peu de politique, je vais passer rapidement, je ne suis pas venu pour faire de la politique, mais c'est des questions un peu qui concernent la politique. On peut avoir quelques idées dans les grandes lignes. Dans la question du régime politique, la laïcité, c'est un sujet important, la justice, sur le plan de la famille, le mariage, l'éducation, la solitude, sur le plan des relations, le sexisme, le racisme, la guerre, sur le plan de la psychologie, le stress, la dépression, les toxicomanies, sur le plan de l'éthique, le suicide, l'euthanasie, l'avortement, et puis en matière d'écologie et santé publique, le sida, la pollution et les OGM. Bon, ça fait beaucoup de choses. Je ne vais pas traiter des problèmes de société qui dépendent assez peu du comportement humain, c'est-à-dire les catastrophes naturelles, les épidémies, la famine, le chômage. Bon, je suis conscient que c'est aussi en partie dû à certains comportements humains, mais c'est un peu des choses quand même qui nous échappent en majeure partie. Donc je ne vais pas aborder ces questions, plutôt m'intéresser à des sujets qui font appel à des valeurs morales. Donc je ne parlerai pas de la grippe A. Bon, juste un chiffre pour expliquer que je m'en désintéresse un tout petit peu. Depuis qu'elle est apparue au mois de mars, c'est-à-dire il y a 7 mois, la grippe A fait 3 000 morts, c'est quand même beaucoup, évidemment. Dans le monde, oui. 3 000 morts, c'est le nombre de morts que fait le paludisme en 10 heures, dans l'indifférence la plus générale. Voilà. Alors, on va commencer par les questions en rapport avec la politique. Alors, première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la Bible nous conseille plutôt le capitalisme ou le communisme? Et on pourrait dire de manière encore plus lapidaire, est-ce que la Bible est de droite ou de gauche? Bon, je crois qu'il faut plutôt inverser la question. C'est-à-dire, il y a des idées politiques qui ont été sans doute inspirées de la Bible, sont-elles plutôt de droite ou plutôt de gauche? Eh bien, je dirais que c'est un peu les deux. À la fois, quand on est croyant, quand on aime la Bible, on a le sens du mérite. Les proverbes disent que des mains nonchalantes attirent la pauvreté et des mains actives procurent la richesse. Donc, celui qui ne travaille pas devient pauvre, celui qui travaille devient riche. Hein, la réussite vient du travail. Ça, c'est quand même un thème plutôt capitaliste, avec toutefois des limites. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille gâtent et où les voleurs percent et dérobent. Donc ce n'est pas toujours travailler plus pour gagner plus, c'est-à-dire faire un maximum de profit au prix de beaucoup de sacrifices. Non, voilà, le chrétien quand même, c'est s'arrêter à un moment donné, voilà, ne fait pas de course au profit. Donc je dirais une certaine notion de capitalisme, mais modérée. Et puis il y a aussi un message qui, disons, a été plutôt retenu par des idées de gauche, c'est la question de la solidarité. On lit dans 2 Corinthiens 8, c'est une question d'égalité. En ce moment, vous êtes dans l'abondance et vous pouvez donc venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Si vous êtes un jour dans le besoin et eux dans l'abondance, ils pourront vous venir en aide. C'est ainsi qu'il y aura égalité. Conformément à ce que l'Écriture déclare, celui qui avait beaucoup ramassé n'en avait pas trop, et celui qui avait peu ramassé n'en manquait pas. Donc, vous voyez qu'il y a à la fois cette idée du mérite, mais de notre côté, l'idée d'un partage, d'une solidarité. Voilà. Aussi sans excès, c'est-à-dire que sans profiter du système, dans le souci que chacun ait une réponse à ses besoins. C'est comme ça que c'est dit. Dans votre abondance, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Il s'agit de répondre aux besoins et non pas de créer des assistés. Donc, vous voyez, on a un certain équilibre entre les deux thèmes. Donc c'est partagé aussi. Alors aussi, on peut se poser la question, comment reconnaît-on un bon homme politique? Quelquefois, on est un petit peu exaspéré en voyant certains comportements. Alors le Seigneur Jésus a donné une règle pour reconnaître un bon leader, on peut dire, un bon conducteur, un bon chef. Jésus, les ayant appelés auprès de lui, dit « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands usent d'autorité sur elles. Il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Voilà. Donc c'est comme cela qu'on reconnaît un bon homme politique, c'est-à-dire qu'il est au service de son pays. Il ne profite pas de son autorité pour dominer, mais pour servir le mieux possible son pays. Et puis sa justice aussi. Il résiste à certains comportements qu'on voit aussi dans certains pays. Un roi, par le juste jugement, affermit le pays, mais l'homme qui accepte des présents le ruine. Voilà, donc vous voyez, il y a l'idée de la corruption que va refuser ce bon responsable politique. Et puis aussi, quand ça prend des dimensions à grande échelle, ça devient de la démagogie. Hein. On veut faire plaisir à tout le monde, donc on fait un peu n'importe quoi. Donc voilà, il a le sens de la justice, le homme politique. Il n'est ni démagogue, ni corrompu. Alors il y a cette question de la laïcité. C'est une question d'actualité. Est-ce que la Bible est pour la laïcité ou est-ce qu'elle est pour que foi et politique s'entremêlent et que Église et État soient réunis comme ils l'ont été jusqu'en 1905 en France? Bien, regardons ce que dit Jésus. Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. Voilà. Le Seigneur Jésus a fondé un royaume spirituel qui n'a rien à voir avec le monde temporel. Donc, bien sûr, le christianisme, c'est quelque chose qui se développe sur la terre, mais il a pour but de changer les cœurs, de changer les esprits, mais pas forcément de réformer la politique. Donc, il faut bien distinguer. Il y a cette idée de la distinction des deux domaines. Pour l'instant, le royaume du Seigneur Jésus n'est pas de ce monde. Il le sera. Hein, c'est le millénium, quand le Seigneur régnera sur la terre. Mais pour l'instant, voilà, il construit un royaume spirituel. Et donc, on comprend qu'ils disent ailleurs, « Rendez donc les choses de César à César et les choses de Dieu à Dieu. » Voilà, ça on peut dire que c'est, on dit que c'est Clémenceau qui a fondé la laïcité, hein, 1903 ou 4. Moi je crois que c'est plutôt Jésus en disant, voilà, « Rendez les choses de César à César et les choses de Dieu à Dieu. Hein, » on sépare bien les deux domaines. Faites respectueux des autorités terrestres, mais en même temps, sur le plan spirituel, nous avons affaire avec Dieu. Donc c'est vrai que le christianisme s'adapte très bien à la laïcité, puisqu'il la contient dans ses textes. Petite parenthèse, ce n'est pas le cas de l'islam, par exemple. Et ça, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Ils croient qu'avec la laïcité, on va contenir l'islam, mais il ne faut pas oublier que dans la sourate 4, verset 105, il y a un verset sur lequel se base la charia, qui consiste à appliquer le Coran à la vie civile, dans lequel Mahomet dit ceci, « Nous avons fait descendre sur toi le livre avec la vérité, afin que tu juges entre les hommes d'après ce qu'Allah t'a fait voir. » Voilà. À partir de ce verset, le cheminement normal de l'islam, c'est de régler la vie civile, alors que le christianisme n'a pour but que de changer la vie spirituelle. Alors il y a cette question en matière de justice de la peine de mort. Bon, je dois dire que les chrétiens sont assez partagés sur la question, hein, il faut quand même le dire, honnêtement. Personnellement, au risque de vous choquer, je serais plutôt favorable. Je fais référence à un verset qui est dans Genèse 9, donc c'est bien avant que la loi soit donnée à Moïse. Donc il me semble que ce verset s'applique d'une manière universelle. Tout ce qui est dans la loi de Moïse, bien sûr, a pris fin avec Christ, mais tout ce qui est donné avant, ce sont des fondements, il me semble, universels. Et Dieu avait dit à Noé, après le déluge, « Celui qui répand le sang de l'homme, c'est par l'homme que son sang sera répandu, car Dieu a fait l'être humain à son image. » Voilà, il donne à l'autorité humaine le devoir d'exercer la justice, et ça peut aller jusque-là. Bon, je sais que beaucoup de chrétiens sont opposés parce que Jésus nous a appris le pardon, ça c'est indéniable, hein. Mais peut-être pour certains crimes particulièrement cruels et horribles, par justice, il est convenable que les personnes soient tuées. Et c'est repris quand même dans l'Épître aux Romains, vous voyez, Romains 13, qui reconnaît aux autorités humaines, aux autorités politiques, comment dire, des prérogatives importantes, l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte l'épée. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. Donc Dieu donne à l'autorité, au gouvernement humain, le devoir d'exercer la justice, et ça peut aller jusqu'à des châtiments sévères, proportionnés. Voilà. Bon, je ne veux pas insister, éventuellement pour y avoir des réactions sur cette question. On passe à notre thème. C'est le thème famille. Alors, on va commencer par la question du mariage. C'est surtout l'occasion de parler de l'union libre et du Pacs. Est-ce que ces deux manières de vivre en couple qui se sont répandues ces derniers temps dans nos pays sont conformes à la Bible? Alors, déjà, pour ce qui est de l'union libre, la Bible appelle cela de la fornication. C'est un terme un peu désuet, mais ça veut dire relation sexuelle sans mariage. Fuyez la fornication. Quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps, mais le fornicateur pèche contre son propre corps. Vous voyez que la Bible appelle le bien, ce que nous appelons l'union libre, un péché. Donc personne ne peut dire que c'est quelque chose qui est selon la volonté de Dieu. Et puis il y a le Pacs aussi. Est-ce que le Pacs pourrait être d'une certaine manière comparé au mariage? Est-ce qu'il peut remplacer le mariage? C'est une forme de mariage allégée, actuelle. Est-ce qu'on peut l'accepter? Alors personnellement, je ne le pense pas. Dans Genèse 2, 24, voilà comment est défini le mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Voilà. On peut dire que le mariage est comparé non pas à un contrat, mais à une fusion entre deux êtres. Alors que dans la définition du Pacs, Pacte civil de solidarité, article 515.7 du Code civil dit ceci: chaque partenaire peut à tout moment mettre fin au pacte de façon unilatérale et sans justification particulière par simple déclaration au tribunal d'instance où il a été déposé. Vous voyez, il y a une liberté de rupture à tout moment, donc il n'a rien à voir à cet attachement qui va jusqu'à être une seule chair. Donc si on déchire une chair, ça déchire tout, hein. Donc voilà, il me semble que d'après ce verset, on peut bien dire que le Pacs n'est pas comparable au mariage. Et puis il y a la question des relations sexuelles avant le mariage. Pourquoi être abstinent avant le mariage? Il paraît qu'aujourd'hui, c'est seulement 5% des Français. Eh bien, quand on a lu ce verset de la fornication, on peut remarquer ce qui est dit: fuyez la fornication. Quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps, mais le fornicateur pèche contre son propre corps. Il ne faut pas oublier cette fin de la phrase. Ça semble vouloir dire que, en fait, les relations sexuelles avant le mariage, c'est nuisible. La Bible déclare que c'est nuisible, puisque c'est un péché contre son propre corps. Ce n'est pas simplement que Dieu l'interdit arbitrairement, parce qu'il l'a décidé. Lui qui connaît l'être humain, il sait que ça lui est nuisible. Alors je me souviens, il y a une quinzaine d'années, je devais traiter la question du mariage, enfin comment entrer dans le mariage. Il y a une quinzaine d'années, bon, je ne me sentais pas particulièrement connaisseur sur ces questions. Et donc j'avais fait une sorte de sondage auprès d'une dizaine de jeunes couples chrétiens qui me paraissaient assez épanouis. Et je leur avais posé la question, qu'est-ce que vous a apporté le fait d'entrer dans le mariage en étant vierge, en vous étant réservé l'un pour l'autre? Et alors j'avais eu des réponses très très intéressantes que je vous présente ici. Voilà, il y avait deux, on peut dire deux pôles dans ces réponses. Premièrement, ça apprend à être patient, à se maîtriser, à endurer des frustrations, lesquelles peuvent survenir dans toute l'existence, y compris dans le mariage, sous une forme ou sous une autre. Et puis ça facilite aussi la fidélité ensuite, lorsqu'on est marié, parce qu'on n'a pas pris l'habitude de changer. Ça donne aussi du respect pour l'autre, entre guillemets, comme on respecte une voiture neuve. Vous savez, quand vous achetez une voiture d'occasion, si vous la poignez un peu, pas très grave, hein, mais si vous en avez une toute neuve, vous allez bien faire attention à la respecter. Et donc ça donne aussi une solennité au jour du mariage, Et ça en fait un ancrage inoubliable. Celui d'un engagement qu'on a pris ensemble et donc qui devient un point de repère très très fort et qui va renforcer la solidité du couple. Vous voyez, donc deux choses. C'est une école de la vie. L'abstinence est une école de la vie. Et l'abstinence sacralise le lien entre les époux. Donc c'est quelque chose qui est profitable. Il y a aussi la question du divorce. Je trouvais ces chiffres en 2006, en France, 43% des mariages se terminent par un divorce. En région parisienne, c'est plus de 50%. C'était 10% en 1960, donc c'est un vrai problème de société. Et avec, on le sait bien, surtout quand on est enseignant, tout le cortège de perturbations pour les enfants qu'on connaît et qui ne sont pas toujours chiffrables. Enfin, j'ai quand même trouvé un chiffre, il semble qu'il y a une étude très sérieuse qui a été faite auprès de familles d'ouvriers. Donc on a pris un échantillon de jeunes qui avaient le même profil, la même origine. Dans une famille d'ouvriers, un enfant de parents divorcés a deux fois moins de chances d'avoir le bac qu'un enfant dont les parents sont unis. Bon, on connaît ça bien sûr dans l'éducation nationale. Alors que dit la Bible? Eh bien, là aussi on peut dire que Jésus a dit des choses très fortes. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ceux donc que Dieu a unis, que l'homme ne le sépare pas. Voilà, on peut dire que d'une certaine manière, Jésus abolit le divorce, qui était quelque chose d'accepté sous la loi de Moïse, parmi les Juifs, mais qui dans le christianisme est en quelque sorte aboli. Donc le mariage est indissoluble. Comme il abolit d'ailleurs par ce verset la polygamie. Ils ne sont plus deux, ils ne sont plus trois, hein. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Bon, bien sûr, un peu plus loin, il envisage éventuellement des exceptions, hein, de divorce et remariage acceptable, mais je ne veux pas entrer dans les détails. La règle quand même de base reste que le mariage est indissoluble. On peut se poser aussi la question, comment éviter le divorce? Bon, je ne suis vraiment pas spécialiste, mais c'est une grande question. Alors, je vais vous surprendre peut-être un peu. Je vais me baser sur un article que j'ai trouvé dans Femme Actuelle, il y a quelques temps, en attendant chez le coiffeur. Il y avait un article sur la psychologie des hommes et des femmes. Moi, ça m'intéresse énormément, tout ça. Et j'ai trouvé une phrase qui m'a frappé tout d'un coup. Il disait ceci, « Les hommes et les femmes sont différents. Ils ont des attentes différentes. Un homme a avant tout besoin de reconnaissance, d'avoir des responsabilités, de savoir qu'on lui fait confiance, pour se sentir un homme, quoi, hein, finalement. Une femme, elle, a essentiellement besoin d'être aimée et d'en avoir des preuves. Les hommes aussi ont besoin d'être aimés, mais quand même, il y a aussi autre chose pour un homme. Et puis, pour la femme, c'est vraiment important de se sentir aimé. Et là, j'ai pensé à ce verset si mal vu, on pourrait dire, de Éphésiens 5, qui dit « Comme l'Église est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses. Et puis, Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » L'homme a besoin d'être reconnu, de se sentir responsable, de savoir qu'on lui fait confiance. Eh bien, une femme chrétienne va offrir à son mari sa soumission. Une femme a besoin d'être aimée, elle a besoin de preuves. Un mari chrétien va offrir à sa femme chrétienne tout son amour et en lui donnant des preuves qui vont jusqu'au sacrifice, avec une mesure qui est quand même extraordinaire. Il sait se sacrifier, il sait lui montrer par des sacrifices. Vous voyez, il faut prendre ce verset non pas comme une contrainte donnée à l'une, bon l'autre moins, mais enfin, pour les femmes, c'est vrai que ça paraît contraignant sous un certain angle, mais c'est plutôt un cadeau qu'on va faire à l'autre. C'est donné, hein, c'est donné dans les deux sens. Voilà. C'est une règle exigeante qui pousse au don autant le mari que la femme. À donner, finalement, ce dont l'autre a besoin. Chacun doit commencer par s'appliquer à répondre aux attentes de l'autre. Alors il y a le problème de l'autorité aussi. Ça aussi, quand on est dans l'éducation nationale, on sait que c'est un vrai problème aujourd'hui. Eh bien, les enfants doivent obéir à leurs parents dans le Seigneur. Cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. Remarquez la nuance, c'est enfant obéissez, enfin, un descendant adulte qui a 40 ans, peut-être pas obéir à ses parents, mais enfant, dans l'enfance, on doit l'obéissance à ses parents, et puis honore ton père et ta mère, c'est plus général, c'est universel, on doit toujours honorer ses parents, quel que soit notre âge. Et on voit quand même que c'est plutôt sur les pères que pèse la responsabilité d'éduquer. Parents ici, c'est gonéus, c'est-à-dire les géniteurs, donc c'est valable pour le père comme pour la mère. Ensuite, c'est pater. Et vous, pater, père, n'allez pas irriter vos enfants par votre attitude, élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur. Voilà. C'est vrai que le père a quand même, l'accent est mis sur la responsabilité du père pour éduquer son enfant. Et malheureusement, on doit reconnaître que notre société manque de pères, au bon sens du terme. Bon, dans les proverbes, hein, ça va jusqu'à la correction, hein, physique. Hein. Tu le frapperas de la verge, mais tu délivreras son âme du Shéol. Hein. Il y a des punitions qui font du bien. J'en ai reçu aussi, comme peut-être tout le monde ici. Et je crois que j'y ai vu, je ne doute pas un instant que c'était une preuve d'amour de la part de mon père. Donc la responsabilité du père est soulignée. Et ça, c'est important de le dire aujourd'hui. Alors, comment être un bon père? Là encore, je ne veux pas donner des leçons. Je pense à trois versets qui nous montrent quel père Dieu est pour nous. Et je crois que ça nous donne peut-être trois grandes lignes de conduite pour un bon père. Le père discipline, c'est vrai. Vous endurez des peines comme discipline. Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car quel est le fils que le père ne discipline pas? Bon, le père discipline, mais le père aime aussi. Le père lui-même vous aime. Et puis, le père est un exemple. Aimez vos ennemis, dit Jésus, en sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car lui, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il envoie sa pluie sur les justes et les injustes. Il vous donne l'exemple de celui qui aime tout le monde, donnant son soleil et sa pluie à tout le monde. Alors faites comme lui. Voilà, on a un Père qui nous donne l'exemple. Voilà, alors je dirais qu'un bon Père, eh bien, c'est un Père qui discipline. Peut-être on devrait dire qui aime en premier, parce qu'il discipline parce qu'il aime. Et puis aussi, c'est un Père qui donne l'exemple, comme notre Père céleste. Il y a aussi cette question de l'individualisme. Je m'aperçois que dans la société d'aujourd'hui, les principales victimes, ce sont souvent des personnes âgées. On est dans une société où il y a beaucoup de personnes âgées et quelquefois, elles ressentent une très grande solitude. Alors, je ne suis pas contre les maisons de retraite, bien sûr, hein, mais il est important qu'on recherche l'intérêt, on trouve la solution qui correspond le mieux possible au bien de la personne âgée. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, il faut que ceux-ci apprennent à mettre en pratique leur foi, d'abord envers leur propre famille, et à rendre ainsi à leurs parents ou grands-parents ce qu'ils leur doivent. Voilà ce qui est agréable à Dieu. Donc après avoir reçu des soins de la part de ses parents, de ses ascendants, eh bien lorsqu'on devient adulte et que les ascendants sont âgés, on doit se sentir responsable, entourer ses ascendants, et responsable de leur bien-être. Et puis pour tous ceux qui sont solitaires, on peut dire que l'Église a une mission à accomplir. On la voit sous forme illustrée dans le livre des Psaumes. J'aime bien appliquer ce verset à l'Église. Ils errèrent par le désert dans un chemin solitaire. Ils ne trouvèrent pas de ville pour y habiter. Il les conduisit dans un chemin droit pour aller dans une ville habitable. Voilà, nos assemblées doivent être des villes habitables, des endroits où on se sent en sécurité, on se sent à l'abri, c'est habitable ici. On peut être bien. Donc elle a ce rôle d'entourer ceux qui sont seuls. Voilà. On arrive aux questions en rapport avec les relations. Donc plusieurs choses. Déjà, les hommes et les femmes. Le sexisme, qui serait le problème de société. Hommes et femmes sont-ils égaux? Ah. Terrain glissant. Disons qu'il ne fait aucun doute que oui, mais après il faut être nuancé. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Donc, hommes et femmes sont créés à égalité, hommes et femmes à l'image de Dieu. Il n'y a aucun doute. C'est pas ce qu'il dit dans le Coran, encore une fois, excusez-moi de faire toujours des comparaisons, hein, mais Allah a créé les hommes supérieurs aux femmes. C'est écrit dans le Coran, textuellement. Et dans le christianisme, eh bien, non seulement il y a égalité, mais il y a presque oubli de la condition de l'un et de l'autre. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus abolit les différences de race, juifs, grecs, les différences de statut social, esclaves, libres, riches, pauvres, et puis abolit les différences de sexe, en tout cas sur le plan de la dignité de chaque être, ni homme ni femme. Bon, mais il faut ensuite être assez nuancé. Le fait qu'ils aient la même dignité, la même valeur, ne signifie pas qu'ils ont la même vocation. Voilà, il faut vraiment distinguer les deux choses. Et c'est vrai que la Bible insiste quand même sur le fait qu'une femme, la mission d'une femme est quand même prioritairement orientée vers sa maison. On lit ceci dans le titre, ça ferait bondir beaucoup de féministes. Qu'elles conduisent ainsi les jeunes femmes, donc il s'agit des femmes âgées qui doivent conseiller les jeunes femmes, à la sagesse en leur apprenant à aimer leur mari et leurs enfants, à mener une vie équilibrée et pure, à être des maîtresses de maison bonnes et actives, à être soumises à leur mari. On voit ici la femme très tournée vers son foyer. C'est quand même la priorité, priorité à la maison. Bon, mais après, on voit quand même des cas, on a des femmes actives, bien sûr, qui ont une activité professionnelle dans la Bible, il y en a de nombreuses. Et la femme vertueuse, d'ailleurs, est extrêmement active sur le plan professionnel. Après avoir bien réfléchi, la femme vertueuse de Proverbe 31, après avoir bien réfléchi, elle achète un champ et plante une vigne grâce à l'argent qu'elle a gagné. Elle se met au travail avec énergie et ne laisse jamais ses bras inactifs. Elle constate que ses affaires vont bien et elle travaille même la nuit à la lumière de sa lampe. Voilà. Alors, vous voyez, il y a quand même un équilibre entre les deux. Certainement la priorité à la maison, certainement ne pas oublier cette priorité, mais ensuite, il y a aussi des femmes qui sont célibataires, il y a aussi des femmes qui ont des enfants qui sont grands, qui sont autonomes, plus autonomes. Alors on pourrait dire peut-être de la manière suivante. Si vous permettez, son activité extérieure occupe le temps laissé par sa famille et sa maison. Peut-être pas loin de 100%, évidemment, si elle n'a pas d'enfant. Bon, il me semble que ça donne quand même une orientation qu'il faut garder à l'esprit. Et je crois aussi que la société souffre de l'oubli de cette orientation. Moi, j'ai des collègues, des profs, des femmes, qui sont à la fois mères de famille et enseignantes et qui ont beaucoup d'enfants en bas âge et qui continuent à travailler à 100%, mais elles ont une vie de chien. Je leur dis, mais comment vous faites? Comment vous faites? Elles sont malheureuses. Bon, mais enfin, c'est une façon d'exprimer une forme d'autonomie, d'indépendance, certes, mais on ne peut pas tout faire non plus. Comment dire, physiquement, la femme est quand même assez orientée vers ses petits-enfants. C'est quand même difficile de penser le contraire. C'est dans la nature des choses. Alors, il y a aussi la question du racisme. Dans notre société française, on parle de tolérance. On doit être tolérant envers les étrangers. Je dirais que la Bible dit plus que ça. Donc, je l'ai lu tout à l'heure, voilà. Dans le christianisme, ni juif, ni grec. Non seulement on est tolérant envers les étrangers, mais il n'y a plus d'étrangers ni de pas étrangers. Voilà. On ne sait plus qui est français et qui n'est pas français. On est tous frères. On est tous un dans le Christ Jésus. Et puis alors, le verbe qu'utilise la Bible pour dire l'attitude vis-à-vis des étrangers, c'est même pas la tolérance, c'est l'étranger qui séjourne parmi vous sera pour vous comme l'Israélite de naissance, tu l'aimeras comme toi-même. Voilà. Nous, chrétiens, nous aimons l'étranger. Nous ne tolérons pas l'étranger, nous l'aimons. C'est plus que de la tolérance. C'est vrai, quand quelqu'un d'étranger se trouve sur notre route, c'est un peu difficile d'être étranger comme ça dans un pays qu'on ne connaît pas trop. Eh bien, je crois qu'il doit être l'objet de toute notre attention, de toute notre priorité. Voilà, on doit l'aimer comme nous-mêmes et comprendre aussi la difficulté que représente pour lui le fait d'être déraciné comme ça. Alors, je vais aussi traiter un argument qui, malheureusement, à l'avant-dernier siècle, il faut dire maintenant, a été un petit peu mis en avant pour justifier à l'époque l'esclavage, le fait d'aller chercher des esclaves en Afrique. Certains ont pris comme argument qu'il y avait une malédiction qu'on trouvait dans la Genèse, dans laquelle il était dit « Maudit soit Canaan, il sera l'esclave des esclaves de ses frères, et béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. » Et sous prétexte que les nations africaines descendaient de Cam, on a justifié d'une certaine manière l'esclavage des Noirs. Alors, je veux faire remarquer qu'ici, ce n'est pas Cam qui est maudit. C'est Canaan. Canaan, ce n'est pas Cam. C'est un descendant de Cam. Ça concerne les habitants de la terre promise, ces nations impies, idolâtres, que les Israélites devaient chasser du territoire lorsqu'ils allaient le conquérir. Donc voilà, attention, hein, c'est ici bien une population très précise qui est visée et non pas tous les descendants de Cam. Donc on ne peut absolument pas arguer de ce passage, qui d'ailleurs n'est même pas une exhortation, c'est une malédiction, pour justifier quoi que ce soit. Et puis il y a cette question des guerres. C'est vrai qu'en France, on est au calme pour l'instant, mais ça existe dans le monde des guerres. Alors, là aussi, la Bible donne les réponses. Elle nous explique déjà d'où viennent les guerres. Il y a deux versets qui nous aident à comprendre d'où viennent les guerres. D'où viennent les guerres? Et d'où viennent les batailles parmi vous? N'est-ce pas de vos voluptés qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous n'avez pas, vous tuez, vous avez d'ardents désirs et vous ne pouvez obtenir. Vous contestez, vous faites la guerre. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Voilà, de quoi vient la guerre? Eh bien, elle vient de la convoitise, de la jalousie. Un pays convoite les biens, ou les richesses naturelles, tout ce qu'on peut imaginer du pays voisin qu'il n'a pas, et c'est comme ça qu'on fait la guerre. Et c'est vrai aussi avec son voisin, hein, une belle voiture, un bon métier, je suis jaloux, alors c'est la guerre. Voilà, déjà, commençons par désamorcer ça. Et puis il y a une autre explication qui est donnée dans la Genèse, alors là c'est, si vous voulez, la première guerre qui nous est racontée dans la Bible. C'est intéressant de voir comment ça se passe. Alors on nous a raconté que c'était au jour de Amraphel, c'est un peu à l'époque de Abraham, hein, roi de Shinar, roi d'Arioch, roi de Hasar, de Kedor-Laomer, roi des Lames, et de Tidal, roi des Nations, qui firent la guerre contre Béra, et puis contre toute une liste d'autres rois. Et on lit à la fin, ils avaient été asservis à Kedor-Laomer, mais la 13e année, ils se révoltèrent. Alors vous voyez, ça aussi, ça me paraît tout à fait caractéristique. Il y a eu un problème en matière d'autorité ou soumission. Bon, tout le monde ne peut pas être indépendant, hein, sinon aussi les Béarnais ou les Basques vont être indépendants. Bon, donc à un moment donné, il faut savoir respecter une forme d'autorité. Il semble que là, ils n'ont plus accepté cette autorité, ils se sont révoltés. Alors, je ne sais pas si Kedor-Laomer, qui était l'empereur, on peut dire, enfin c'était petit, mais le grand chef là, était un tyran, peut-être, donc c'était à ce moment-là peut-être de sa faute, ou est-ce que ses vassaux étaient des barbares belliqueux et indisciplinés, puis qui n'acceptaient pas son autorité. En tout cas, il y a eu guerre. Voilà, parce que le principe autorité-soumission n'a pas fonctionné. Voilà. Peut-être une mauvaise autorité, peut-être une mauvaise soumission. Et ça aussi, je crois que c'est une source de guerre. Voilà. Quand le rapport d'autorité fonctionne mal, soit par autoritarisme méchant de celui qui a l'autorité, soit par esprit d'indépendance, d'insoumission des subordonnés. Il peut y avoir les deux. Alors, comment est-ce que la Bible va répondre? Pour ce qui est de la convoitise, eh bien, elle nous invite à savoir nous contenter. Je ne vais pas toujours convoiter ce que mon voisin a. Je vais aussi me contenter de ce que j'ai. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Voilà. Appuyons-nous sur Dieu pour avoir ce qui est nécessaire. Ne convoitons pas ce qu'a notre voisin, le contentement et la foi. Et puis pour cette question de autorité, soumission, il y en a dans la vie tout le temps, hein, que ce soit dans la famille, à l'école, dans la société, il y a forcément des rapports d'autorité. Alors on voit comment Paul traite le problème. Il va donner une exhortation au maître et une exhortation au serviteur. C'est intéressant de voir ce qu'il dit à chacun, pour que ça fonctionne bien. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte, et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Il sublime la notion de soumission. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a pas de différence entre les personnes. Voilà, vous avez l'autorité, d'accord, mais soyez juste. Et puis sachez que de toute façon, vous aussi, vous avez un maître, et vous allez rendre compte à ce maître, de la manière dont vous avez usé d'autorité. Donc une soumission sublimée et une autorité bienveillante, qui n'est pas une prise de pouvoir, une domination, un écrasement, mais un exercice dans le respect du subordonné.